France Inter.
Bah, les bleu ciel, par exemple, c'est FR. Les oranges, c'est orange. Il y a les vertes, c'est Bouygues. Tout est emmêlé. Ouais, rien n'est conforme, en fait. Quand le technicien il va venir et qu'il voit qu'il y a un échec, en gros qu'il ne peut pas rétablir le client, et bah, il va foutre son bordel, qu'il va casser d'autres clients, et ça fait qu'on nous, on ne trouve pas la panne.
C'est une histoire de fils entremêlés, des fils si fins qu'ils mesurent à peine le dixième d'un cheveu. Ces fils de verre ont la capacité de transmettre la lumière. Ils ont révolutionné notre quotidien pour téléphoner, regarder la télé, envoyer un courriel, surfer sur Internet. C'est la fibre optique, une invention qui permet de transmettre des données à la vitesse de l'éclair, sans limite. Il y a tout juste 10 ans, en 2013, le gouvernement a lancé son plan pour une France à très haut débit, le THD. Objectif promis, installer la fibre sur tout le territoire avant 2023.
En fait, je ne connais pas une seule personne à Herblay qui n'a pas eu de coupure de fibre.
La promesse du très haut débit pour tous n'a pas été tenue dans les délais, malgré les gigantesques sommes investies, 20 milliards d'euros. En attendant, c'est la catastrophe dans certaines zones du territoire, soit parce qu'elles n'ont toujours pas de connexion à Internet, soit parce que le réseau défaille. Dans un cas sur quatre, le raccordement à la fibre optique se termine par une panne.
Vous voulez que je donne une réponse pour vous dire « oui, c'est génial, les opérateurs ont fait leur travail ». Non, non, les opérateurs ne font pas leur travail. Notre territoire est particulièrement malmené.
Les acteurs de la fibre parlent eux-mêmes de jungle du raccordement. Les services de renseignement s'en inquiètent. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, s'est mise à enquêter sur des coupures en série suspectes considérées comme des actes de terrorisme numérique. Les ratés de la fibre, un reportage d'Anaël Verzo, qui nous emmène d'abord à Herblay-sur-Seine, commune paisible du Val d'Oise, 31 000 habitants, et c'est là que vit Benoît Vincent.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Benoît, bonjour. Anaël.
Enchanté.
Enchanté également. Merci beaucoup. Merci.
Allez-y.
Ah, mon chien.
Petit.
Oh, bah oui, ça s'entend.
Moi, je les garde.
C'est vrai.
On va s'installer là, si vous voulez.
Ouais, très bien. Ah, bah vous êtes bien, là.
Ah, moi, je suis impeccable, là. Ouais. Plein milieu d'Herblay, j'ai tous les champs, j'ai tout à côté. Là, on est dans... En fait, on n'est pas au centre-ville, on est au centre de la ville. On a tout à portée de main, quoi. Ça, pour les enfants, c'est magique.
Oui,
c'est le lycée est juste en face. Donc, il y en a un que ça arrange bien. Son grand truc, c'est de partir quand il entend la sonnerie. Il est joueur. Hein. J'ai failli vous maudire.
C'est vrai ? Parce que ?
Parce que hier soir, j'ai eu une nouvelle coupure d'Internet. Donc, hier, vers 18h, plus d'Internet. Donc, je me suis dit, bah tiens, y a-t-il une coïncidence ou pas ? Mais bon, c'était pas la première, malheureusement. Ouais. J'en ai eu une par mois sur les 3 derniers mois. En tout cas, ça refonctionne ce matin, mais hier soir, je faisais pas le fier, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, parce que notamment aujourd'hui, je suis en télétravail. Et donc, sans Internet, c'est un peu plus compliqué. Est-ce que j'allais devoir aller au bureau? Bon, c'est pas un drame en soi, mais enfin, c'était pas du tout ce qui était prévu. Et puis, à côté de ça, j'avais les garçons qui avaient un petit souci de switch, de télévision et autres sujets.
Oui, parce qu'ils sont adolescents, donc...
Ils sont adolescents, et donc comme tout bon adolescent qui se respecte, les jeux en ligne, la télévision, le téléphone, tout ça, ça fait partie de leur vie, et à chaque fois qu'il y a des coupures, ça met un peu de tension.
C'est pas seulement vous, c'est aussi les enfants.
Ah oui, non, en fait, ça touche tout le monde. Quoi.
Et votre femme aussi, votre épouse.
Et mon épouse aussi, oui. Bah, finalement, ça touche à l'arrivée tout le monde, et étant donné que c'est régulier, bon, je dirais qu'on commence à avoir un peu l'habitude, malheureusement. Alors, d'une espèce de surconsommation, à l'heure où on nous pousse à faire de plus en plus de choses en ligne, à l'heure du télétravail, à l'heure de... Enfin, aujourd'hui, regarder la télévision, tout le monde le fait par la fibre, par exemple, des choses aussi simples que ça, quoi. C'est même les opérateurs qui vous vendent en plus des chaînes supplémentaires. Donc, c'est... Enfin, je comprends pas leur intérêt, je comprends pas leur façon de faire.
Et votre téléviseur qui est juste là fonctionne grâce à la fibre ?
Oui, absolument.
Donc, quand vous avez des coupures, vous pouvez plus regarder la télé ?
Exactement. tant que j'ai encore une antenne, une bonne vieille antenne d'Hersen, mais j'ai plus le câble. Bon, enfin, je pense que je vais le racheter parce que voilà, ça arrive tellement fréquemment que bon. Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est ubuesque. Cette situation est complètement ubuesque. À la limite du foutage de gueule, si vous me permettez l'expression.
C'était l'époque où quand tu surfais, tes parents ne pouvaient pas téléphoner, ni Deezer, ni Spotify. C'était le temps de Winamp. Télécharger un film en 3 semaines sans break. Une fois sur deux, on tombait sur un fake. À l'époque, on avait des disquettes. On allait sur le net avec Netscape. Pas de Wikipédia. On consultait en carta. Purée, c'était la belle époque, ça, madame. Je me rappelle, il y avait aussi lui. Ingénieur informaticien. Et ouais, mon petit gars, on avait 2 heures par mois par mois, nous, chez Libertisseur, Fally, sur la loue, à Well ou Club Internet. Et ouais, y'avait pas de Wi-Fi, que des modèles 56K.
À 20 minutes à pied de chez Benoît, dans le centre-ville d'Herblay-sur-Seine, vivent Claude et Edith Cuba, avec qui j'ai maintenant rendez-vous.
Numéro 13. C'est ici.
Bonjour.
Bonjour.
Non, bon, c'est facile de la gare. Bonjour madame.
On en voit vraiment les
pauses. Enchantée. Merci.
Ça risque rien, vous inquiétez pas.
Tac, vous voulez pas que j'enlève mes chaussures ?
Non, pas du tout.
C'est sympa, ouais. C'est joli la voûte là.
Oui, c'est ce qui m'a plu dans la maison.
Ah oui,
c'est
oui.
Une vieille maison, ouais.
Puis là, vous êtes au frais au moins.
Ah, cette oui. Maison, elle est super. Oui. Ouais, parce que les murs sont vachement bien, en fait.
Il y a l'écran de télévision dans le salon et la box qui est allumée. Là, ça fonctionne. Et puis ici, on entre dans la cuisine.
Donc le 23 mai 2023, je rentre chez moi assez tard le soir, vers 20h, et donc je trouve une nouvelle fois la fibre coupée. Donc j'écris directement à Monsieur le maire. Monsieur le maire, revenant chez moi en fin de journée, je constate une fois encore que notre connexion de fibre est coupée ou débranchée. Cela s'ajoute aux 25 précédentes, dont une de plus de 10 mois en 2020. Vous comprendrez aisément que la situation devient invivable. En effet, mon épouse est diabétique, insulino-dépendante. Depuis 2019, elle a fait au cours de la nuit 3 malaises avec chute et 1 coma. Si j'ai pu gérer la situation lors des chutes et de ces malaises, je suis docteur en chirurgie dentaire à la retraite, il n'en a pas été de même pour le coma où j'ai dû appeler le SAMU, la laissant seule pendant un épisode de convulsion. Pour descendre dans notre cour où le portable passe mieux, que se passerait-il en cas de nouvelle urgence si les portables ne passaient pas ? Qui en porterait la responsabilité en cas d'accident grave ? J'ai donc décidé de porter plainte pour dégradation volontaire et mise en danger de la vie d'autrui. Je vous remercie, monsieur le maire, d'avoir pris le temps de lire mon courriel et vous prie d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations.
Est-ce que vous pouvez me raconter, Claude, le moment où Edith, votre épouse, a eu ce malaise dont vous parlez dans la lettre?
On avait nos petits-enfants qui étaient venus la veille pour dormir ici. Ils étaient en vacances, c'était au moment de Pâques. Et moi, je me suis réveillé dans la nuit parce que j'entendais le poignet de mon épouse qui tapait contre la table de nuit. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'elle convulsait. Elle était dans un coma diabétique. Elle était complètement inconsciente, c'est-à-dire elle ne répondait pas à mes questions. Elle était les yeux dans le vague, etc. Donc, je savais qu'elle respirait, donc je l'ai mis en PLS tout de suite. Je lui ai fait sa piqûre et j'ai essayé d'appeler le SAMU. Comme vous avez vu, notre maison est ancienne, les murs sont très épais. Nous sommes à l'étage, la chambre est à l'étage. On est encastré entre 3 autres maisons. Et donc, le portable ne passait pas, donc je suis obligé de la laisser descendre dans la cour pour appeler le SAMU.
Je ne me souviens pas de m'être réveillée ni quoi que ce soit.
Alors moi, une fois que je lui ai fait sa piqûre de glucagon, je suis descendu appeler le SAMU dans la cour et j'ai eu le médecin régulateur qui m'a dit « je vous envoie tout de suite quelqu'un ». Si jamais, comme ça s'est passé d'autres fois, le portable ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait ? Il était 2h du matin, vous pensez bien qu'à 2h du matin, je ne vais pas aller cogner sur les portes des voisins, ils ne vont jamais m'ouvrir.
Parce que le téléphone et la fibre,
c'est relié maintenant. Quand on n'a plus la fibre, on n'a plus de fixe. Et c'est vrai que pendant le confinement où c'était en kikinant, c'était qu'on n'avait ni téléphone,
on n'avait plus de télé non plus. C'est-à-dire que moi, je paye un abonnement, etc. Et j'avais plus rien. Même pendant le confinement, j'avais voulu faire une vidéo consultation. Ça ne passe pas. Moi, j'avais essayé, c'était impossible, tout simplement.
Depuis que nous avons souscrit ce contrat fibre, on a eu, je pense, un tiers du temps sans prestation. C'est inacceptable.
Et vous payez combien par mois, le forfait ?
On paye 50 euros, 49,99 par mois.
Suite à ce grave incident et au malaise de sa femme, Claude a porté plainte contre l'opérateur qui a déployé la fibre, XP Fibre et ses prestataires.
Et me voilà maintenant devant l'hôtel de ville d'Herblay. J'ai rendez-vous avec le maire, Philippe Rouleau.
Ah, vous êtes là.
Hôtel de ville, cabinet du maire, bureau des adjoints, communication, manifestation, démocratie locale, salle de réunion. On est attendu.
Bonjour.
Vous avez beaucoup de plaintes des habitants, vous recevez beaucoup de courriers comme c'est ce énorme. Courrier de Claude.
C'est énorme, c'est la première cause de sollicitation. C'est-à-dire que quand je fais des réunions publiques, le premier sujet qui vient, et encore, c'est le premier sujet qui vient alors que, quelque part, ils savent que c'est pas la responsabilité de la ville, mais ils ont besoin de m'en parler. En fait, je ne connais pas une seule personne à Herblay qui n'a pas eu de coupure de fibre. Moi, j'ai des gens...
Des habitants
ouais. d'Herblay, exaspérés, qui vont jusqu'à faire le guet au niveau d'un point de mutualisation.
D'accord, d'une armoire.
D'une armoire. Ils sont là. L'autre fois, j'avais un regroupement de 20 personnes, 20 habitants d'un quartier, qui surveillaient le travail du technicien pour vérifier que le technicien n'était pas en train de débrancher. J'en ai même qui font des raccordements eux-mêmes. C'est-à-dire que moi, l'autre fois, j'ai eu un habitant, il a eu une panne. Il a vu qu'il y avait un technicien qui était intervenu. Mmh. Et ben, il est retourné à l'armoire, il s'est rebranché lui-même.
Et là, on va à quelques mètres de la mairie, juste après la police municipale. On est en plein centre-ville et là, il y a deux armoires. Il est écrit Herblay PM06 sous surveillance électronique.
Et vous voyez que la porte a été fracturée. Donc,
la porte est ouverte là.
La porte est ouverte, donc n'importe qui peut rentrer. Ça a été fracturé par des sous-traitants d'opérateurs commerciaux.
Et pour quelle raison est-ce qu'ils ont fracturé ? Ils n'avaient pas la clé ?
Alors, c'est soit ils n'ont pas les clés, soit je ne sais pas. Nous, on passe notre temps à les réparer.
À un moment donné, vous avez fait poser des cadenas à toutes les portes des armoires.
Toutes les portes des armoires de la ville. J'ai fait mettre des cadenas. C'était des cadenas avec des codes. Et j'avais donné donc les codes aux opérateurs. Mmh. Et ben, des sous-traitants d'opérateurs n'ayant pas le code, ils ont fracturé et coupé le cadenas. Donc en fait,
maintenant il n'y a plus de cadenas.
Il n'y a plus de cadenas nulle part. Ils vont également jusqu'à dégonder même les portes quand ils n'arrivent pas à l'ouvrir.
Alors là, il y a quelqu'un justement qui est en train de prendre des photos. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous faites, pardon ?
Je prends des photos pour signaler ces dégradations.
Et vous êtes un technicien ?
C'est ça, effectivement.
Là, on est rentré à l'intérieur et donc il y a des tas de... C'est dingue, il y a des tas de câbles emmêlés les uns c'est dans les ça. Autres. C'est des milliers de câbles de couleurs différentes, orange, rouge, vert. Et ouais, chaque opérateur a sa couleur,
exactement,
c'est ça ?
Exactement, ouais. Bah, les bleu ciel, par exemple, c'est SFR. Les oranges, c'est orange. Il y a les vertes, c'est Bouygues. Les rouges, c'est Free. Donc ils sont tout est emmêlé. Ouais, rien n'est conforme, en fait. Le souci aussi, c'est que il y a des sous-traitants, en fait, qui, par exemple, quand le technicien va venir et qu'il voit qu'il y a un échec, en gros, qu'il peut pas rétablir le client, et bah, il va foutre son bordel. Il va venir, il va ouvrir des raccords qui sont faits dans les rues et qui va casser d'autres clients, et ça fait qu'on, nous, on trouve pas la panne, vu que ça crée des gros problèmes, en fait.
Parce qu'actuellement, il y a combien d'entreprises qui raccordent pour les opérateurs ?
Mais c'est énorme, parce qu'en fait, il y a des sous-traitants, mais il peut y avoir des sous-traitants de sous-traitants.
Exactement.
Est-ce que vous êtes un sous-traitant de sous-traitants ?
Non, moi, je suis sous-traitant directement. Mais il y a des opérateurs, ils ne vont pas être payés. S'ils ne rétablissent pas le client, ils ne seront pas payés. Donc ça crée d'autres problèmes, en fait. Ils vont aller débrancher quelqu'un ou ils vont aller casser la fibre à quelqu'un d'autre pour être payés sur l'intervention. Regardez, moi, mon client, il a été coupé hier à 21h30, à peu près. Et regardez, venez voir.
Alors, il y a le technicien qui invite le maire dans l'armoire.
Regardez. Bah là, j'ai rebranché au moins une dizaine de clients depuis tout à l'heure.
Vous êtes en train de clipser des câbles verts. de les remettre dans leur boîtier.
J'ai une question technique. Est-ce qu'en rebranchant ces abonnés...
Ça va refonctionner directement.
Ça va refonctionner directement.
Je pense que même votre... c'est la personne, c'est Claude, c'est ça?
Oui.
Bah, je pense qu'elle doit être connectée ici parce qu'il y a une dizaine de personnes.
D'accord.
Eh ben, écoutez, vous allez pouvoir le rassurer.
C'est merveilleux. Parce que si Claude, en plus, est raccordé à nouveau. Il est rue du Vivier, c'est pas loin d'ici.
C'est dingue. Et ouais. Ça sent... Il y a une odeur d'urine, là, non? Dans l'armoire. Ça ressemble à presque un local poubelle. Hein.
Alors que ça a été nettoyé il y a 2 mois par les services de la ville d'Herblay-sur-Seine. C'est pas à nous de faire ça. Hein.
Est-ce que vous allez porter plainte contre l'ARCEP? C'est en cours?
Alors oui, c'est en cours. Effectivement, moi j'envisage de porter plainte pour non-assistance à personne en danger. Parce que comme c'est eux, et c'est marqué sur leur site internet, j'ai bien été vérifié à la définition, c'est les gendarmes des télécommunications. Bah écoutez, moi, heureusement que la gendarmerie est plus efficace que l'ARCEP, hein, parce que, mais qu'ils viennent sur le terrain, je leur ai envoyé je ne sais combien de dossiers, des photos, on a fait des visios, mais que ça sert à rien, ça sert à rien.
Fausse joie, finalement Claude n'a pas été raccordé lors de cette intervention. Merci Cristal.
Bonjour. J'ai rendez-vous à l'ARCEP. S'il vous plaît, merci. Bonjour.
L'ARCEP, c'est l'autorité de régulation des communications électroniques des postes, de la distribution et de la presse, autrement dit, le gendarme des télécoms.
Bonjour.
Bonjour, enchanté.
Moi aussi.
Merci.
Venez. Bonjour, je suis Laure Larodière et je suis présidente de l'ARCEP. C'est le régulateur des télécoms, parfois gendarme, oui, parce qu'on a un pouvoir de sanction, mais c'est aussi un arbitre qui édite des règles sur un marché qui est celui des télécoms.
Alors, il y a des acteurs des télécoms, mais aussi des élus, des maires, des députés, des sénateurs qui souhaiteraient que vous, l'ARCEP, soyez plus interventionniste. Ils veulent un régulateur fort, plus fort. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais on est un régulateur fort, je voudrais les rassurer, c'est-à-dire que il y a ces réseaux très accidentogènes sur lesquels il faut des plans de reprise. Et c'est en cours. Altitude nous a notifié un plan de reprise, mais il ne l'a pas fait de gaieté de cœur. C'est parce qu'on a mis la pression sur l'opérateur pour qu'il reprenne l'ensemble de ces réseaux. XP Fibre.
Altitude, XP Fibre, ce sont 2 sous-traitants chargés de déployer la fibre pour SFR.
Nous a notifié un plan de reprise aussi de certains de ces réseaux en Ile-de-France parce qu'on leur a mis la pression, parce qu'on a ouvert une enquête administrative sur les réseaux d'XP Fibre. On a aussi des discussions avec Free en ce moment parce que ces réseaux de Free sont de très mauvaise qualité et il y a des très gros problèmes sur ces réseaux. Donc, on met la pression pour que Free nous propose un plan de reprise. Donc, c'est ce qu'on fait. Et nous avons, avec le ministre, demandé à la filière de nous faire un plan d'action de qualité. Ils nous ont remis un plan d'action de qualité en septembre. Et l'ARCEP pilote le suivi de ce plan d'action.
Qui consiste en quoi, ce plan d'action?
De labelliser, finalement, les agents d'intervention selon une grille de compétences et une formation adéquate auprès des agents d'intervention sur le terrain.
Alors, c'est une initiative des opérateurs, mais venant de vous, est-ce que vous avez d'ores et déjà sanctionné des opérateurs?
Pour l'instant, nous n'avons pas sanctionné des opérateurs parce que nous souhaitons que là où c'est nécessaire, ils reprennent le réseau. Et donc, c'est ce qui est en cours chez les opérateurs. Ils réinvestissent, en fait, sur leur réseau. Ils y mettent des moyens financiers importants. Et nous mesurons de voir si ça apporte des résultats ou pas. S'il faut faire autre chose dans une deuxième phase, on n'hésitera pas à le faire.
Sanctionner davantage?
Ah, mais je suis déterminée à ce qu'on obtienne des résultats et je ne lâcherai pas la pression tant qu'on n'aura pas le résultat.
Et si la formation des opérateurs était l'un des nœuds du problème? La fibre aujourd'hui en France, c'est 40 000 emplois d'ingénieurs et de techniciens, mais seulement 3 grands centres délivrent des diplômes avec un apprentissage pendant 2 ans en alternance. Ces 3 écoles sont concurrencées par d'autres établissements qui préfèrent former à la va-vite. Les formations express en 10 jours maximum sont celles qui attirent le plus de candidats. Fatalement, tous ne sont pas au même niveau et tous n'ont pas le même statut. Les techniciens diplômés démarrent leur carrière à 1600 euros brut. Les indépendants en sous-traitance sont payés entre 50 et 70 euros par intervention.
il y a une multitude de sous-traitants qui travaillent pour les opérateurs de la fibre. On retrouve Anaël Verzo avec deux d'entre eux pour un dépannage.
Je me trouve avec un responsable technique de Sogetrel, qui est un sous-traitant de Bouygues Télécom, et qui va faire une intervention chez quelqu'un pour un SAV, un service après-vente, pour un problème de fibre.
Interception sur France Inter.
Bonjour. Je peux prendre vos prénoms à tous les deux ?
Thierry.
Thierry, donc vous êtes le responsable technique de Sogetrel.
Toudo, le technicien.
Et là, qu'est-ce que vous faites, Toudo ?
Moi, je prends la mesure du signal, de la fibre Bouygues.
Ah. Et alors, ça donne quoi ?
J'ai un bon signal.
C'est un boîtier que vous avez.
On installe la jarretière optique du client, qui est reliée à sa prise fibre, et on regarde le signal. Donc le signal est bon, et normalement, il n'y a pas de souci, ça devrait fonctionner.
Donc on va juste essayer la Wi-Fi et la télévision en même temps.
Vous avez juste rebranché la box ? Débranché, rebranché ?
Concrètement, oui. Concrètement, la box ne fonctionnait plus, parce qu'il y avait un problème de redémarrage. Du coup, j'ai dû faire un reset et rebrancher le câble.
D'accord.
C'est juste ça, malheureusement, il n'y a pas plus que ça.
Et ça refonctionne, bon ?
Ouais. C'est rare.
C'est rare que ce soit que ça.
Ouais, en général, c'est beaucoup plus complexe.
Donc ça veut dire qu'il va falloir la débrancher, la rebrancher régulièrement comme ça pour que ça fonctionne ?
Pas régulièrement, mais de temps en temps, ça peut arriver. C'est malheureux, mais c'est la technologie, c'est du matériel, donc c'est pas de l'humain, c'est du matériel. Ça peut de temps en temps être défectueux, ça peut bugger. On a juste à redémarrer et puis ça repart. Donc je pense que la dame, elle a compris.
On peut juste réessayer pour voir si ça fonctionne, comme je l'ai redébranché.
Vous avez des ordinateurs, tablettes ou autres connectés en Wi-Fi ou pas du tout ?
Un ordinateur.
Un ordinateur, vous voulez l'essayer ? Tant qu'on est là, autant en profiter pour vérifier que tout fonctionne correctement.
Ok, moi j'ai besoin d'une petite signature. Ok, ça c'est bon pour vous, ça c'est à moi de signer. Hop. Je voulais pas mettre Netflix, mais c'est fait. Écoutez, je vous souhaite quand même bonne journée. Moi j'ai rien d'autre à dire. Profitez bien.
Au revoir.
Au revoir.
Ça va bien. J'ai eu stress, c'était rapide, je vous l'ai dit.
Pardon.
Bonjour.
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 Bonjour monsieur, pardon. On est un peu nombreux.
Oui, une box unique. Tous les opérateurs qui ont un module SFP dans leur box, ils ont à chaque fois les mêmes problèmes. Le module SFP, il surchauffe. Et puis après, il faut les remplacer souvent. C'est générateur de panne, en fait.
Monsieur, la fibre optique.
On avait un client qui était en panne en fibre optique.
Comment, monsieur ? Et ça marche mal ?
Des fois, il y a des problèmes, oui.
C'est-à-dire, il y a quoi comme problème ?
Problème de connexion avec la box, la télé.
Non, parce que des fois, en bas, dans la boîte, quand il y a un truc qui n'est pas libre, on se branche dessus, puis voilà, quoi.
Vous faites ça vous-même ?
Mais non, pas nous.
Ah.
Les opérateurs, SFR. Oui, oui. C'est ça, le problème.
Ils reconnectent, ils rebranchent.
Il faut les rappeler. C'est le gros bazar, quoi. Et on paierait énormément de temps et ça coûte très cher. Parce que moi, j'ai 50 euros d'Orange, il y a 50 euros de SFR, c'est de la folie, quoi.
Vous payez 100 euros ? 100 euros par mois ?
Ah oui, à l'aise.
Oui. Ouais. Peut-être revoir votre forfait, là.
C'est ce que je vais faire. Ouais. Voilà.
Monsieur, merci beaucoup. Au revoir, à vous aussi. Donc, tous les deux, vous êtes employés par Sogetrel, qui est...
Moi, je suis employé par Sogetrel.
Qui est un sous-traitant de Bouygues.
Exactement, un rang 1. Et Toudo est mon partenaire.
Partenaire, ça veut dire
quoi ? Partenaire, ça veut dire que... Avant, on disait sous-traitant. D'accord. Sous-traitant, c'est un peu péjoratif. Donc, nous, on préfère les appeler partenaires. Voilà.
Ça, c'est comme un sous-traitant ?
Oui et non.
Ah, alors c'est quoi la différence ?
Nous, on préfère les appeler partenaires parce qu'on est dans le même bateau, eux et nous. Ouais. Comme je disais tout à l'heure...
C'est plus joli.
C'est plus joli et c'est une manière aussi de les considérer. Parce qu'il faut savoir que si lui, il n'est pas là, si j'ai pas de technicien, c'est moi qui dois aller sur le terrain. Lui, s'il est mauvais, c'est moi qui suis mauvais. Si mes techniciens font des mauvais chiffres, c'est moi qui fais des mauvais chiffres.
Et Toudo, vous êtes indépendant ou vous travaillez pour une entreprise ?
Non, indépendant.
Donc vous êtes auto-entrepreneur ?
Ouais.
Et ça va, vous gagnez votre vie en faisant ça ?
Ça va, je me plains pas en fait.
Non, mais ça va, honnêtement, on est bien. Moi, je suis bien, personnellement, moi, je suis bien.
Tu peux parler librement.
Moi, non, mais c'est vrai, c'est que... Enfin, moi, je préfère auto, parce que bah, je suis libre. Enfin, je peux... J'ai pas de contraintes réelles, à part juste faire le boulot, quoi.
Vous travaillez toute la journée ?
Ouais.
Il habite à Clamart.
Ah.
Il habite à Clamart, il travaille sur la zone.
Là, vous êtes sectorisé.
Exactement.
Ouais. C'est plus simple.
Ça fait combien de temps que vous faites ce boulot ?
Ça va faire 2 ans, 2 ans et demi. C'est pas compliqué.
En gros, les problèmes, c'est quoi, la plupart du temps ?
En général, c'est souvent les boîtiers généraux, au sous-sol.
Vous avez fait une formation pour faire ce métier-là ou...
Exactement, j'étais formé avec mon responsable pendant un certain temps. Après, moi, je parle pour moi, parce que moi, j'étais plombier avant. Du coup, c'est pas pareil.
Ah, donc les câbles, vous connaissez ?
Non, mais relations clients. Quand on est plombier, on vient faire un dépannage. Du coup, moi, j'ai la facilité de communiquer. Après, moi, j'ai vu que le cuivre, pour moi, l'équivalent du cuivre, c'est la fibre. Je perçais bien des trous. Enfin, par rapport à mon vécu à moi, c'est super simple.
La petite mallette orange, elle est à vous, Thierry. C'est la soudeuse. Ah, de Toudo, d'accord. Et je me demandais, Thierry, comment vous avez recruté Toudo ? C'est vous qui l'avez recruté ? C'est quelqu'un d'autre ?
Quand je suis arrivé sur la zone du 92, il était déjà là. J'ai vu directement qu'il se démarquait. Et il est toujours à l'heure, il a un bon contact, il est toujours bien habillé. Il a toujours le sourire. Non, mais sérieusement, moi j'aime être entouré de bons techniciens. Moi, je suis dans les télécoms depuis 2007. J'ai formé beaucoup de techniciens. Je suis conducteur de travaux, ce qui veut dire que je gère des départements, j'ai des secteurs, j'ai un nombre d'interventions à traiter. Je suis jugé par rapport à la qualité des interventions. J'ai des statistiques à respecter. Chaque opérateur évalue la qualité de ses techniciens. Nous, on appelle ça la SATCLI chez Bouygues Télécom, c'est la satisfaction client. Donc, Toudo qui va aller chez des clients, il a un objectif de 93% de clients satisfaits. De temps en temps, il peut se louper, mais on évite au maximum. C'est-à-dire que sur 10 rendez-vous, ben, il faut qu'au moins 7 ou 8 rendez-vous, il arrive à remettre en service le client. Et si sur ces 10 clients qu'il a traités, il arrive à en avoir 9 qui sont satisfaits, c'est un super technicien. L'image de marque de Bouygues, du coup, sera au top. Mon technicien est au top, Société Réelle est au top, et c'est bon pour tout le monde.
Et ça fait quoi au bout du compte ? Ça vous fait une prime ? Ça vous fait...
On a des bonus au contrat, et c'est surtout en termes d'image, en fait.
Et vous, Thierry, vous êtes en CDI ou...
Moi, je suis en CDI chez Société Réelle depuis 2018. D'accord. On a la chance de travailler tous les jours chez plusieurs clients. Si on a le sens du contact, qu'on aime le contact, c'est un travail qui est super. C'est un tout, hein. Vous voyez, Toudo, il a ses chaussures de sécurité, il a son petit gilet fluo, il a tout son matériel, il est très bien. Et ben, j'essaie de faire de manière à ce que tous mes techniciens soient comme lui. Plus j'aurai de Toudo, ben, plus j'aurai de bons résultats et ce sera bon pour moi. On veut gagner des parts de marché.
L'industrie de la fibre, c'est un système de sous-traitance en cascade, avec une hiérarchie de rang qui peut aller de 1 jusqu'à 5, c'est-à-dire qu'une entreprise peut sous-traiter à des sous-traitants, qui eux-mêmes sous-traitent à d'autres sous-traitants, qui eux aussi sous-traitent, etc., etc. Les techniciens auto-entrepreneurs comme Toudo se connectent à des plateformes sur leur téléphone pour connaître le nom et l'adresse de leur prochain client, exactement sur le même modèle que les chauffeurs d'Uber ou les livreurs de Deliveroo. Chaque opérateur commercial, Bouygues, Orange, SFR, Free, a sa propre plateforme. Et au bout de cet écosystème, il peut y avoir des sous-traitants si maltraités qu'ils n'ont pas été payés. Nous allons dans le Grand Est, à Épernay, rencontrer Christophe Petit, un ancien sous-traitant. Alors, Christophe, on est à quelques mètres d'une armoire. Une armoire qu'on appelle également un point de mutualisation. Elle est verte. Elle fait à peu près votre taille, je dirais, 1m80 ou quelque chose comme ça. Et juste à côté, elle est vraiment à 2 mètres d'un champ, un champ de blé. On entend les oiseaux, il y a quelques coquelicots, les voitures qui passent.
Nous sommes intervenus ici à 8 personnes pendant 2 mois de sueur, avec des partenaires. Des sous-traitants aussi, hein, et en interne aussi, parce que j'avais aussi des salariés.
Votre société s'appelait C4TP ?
Oui, tout à fait.
Pourquoi C4TP ?
Ouais, TP, déjà le TP, c'est le travaux publics à la fin.
D'accord.
Et le C4, en fait, je m'appelle Christophe, ma femme s'appelle Catherine, j'ai une fille qui s'appelle Cassandra et l'autre Kathleen. et c'est les 4 C. Nous, on s'occupait uniquement du transport. C'est-à-dire qu'on transporte la fibre d'un point A à un point B. Donc, il peut être de 500 mètres à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres.
Vous aviez combien de salariés dans votre entreprise ?
Alors, en salariés propres, j'en avais 3. Mais après, en salariés sous-traitants, auto-entrepreneurs, ça montait jusqu'à une vingtaine de personnes.
Est-ce que vous avez calculé le nombre de câbles, de fibres que vous avez fait passer sous la terre durant cette année-là ?
Une centaine de kilomètres, on multiplie par 3, ça fait 300 kilomètres de câbles à peu près. Sous contrat avec un cabinet de maîtrise d'œuvre qui travaillait pour la société Losange. Losange, en fait, c'est le concessionnaire de la région Grand Est. Donc Losange a le marché de l'installation de la fibre optique de toute la région Grand Est, qui en fait fait appel à des cabinets d'études pour pouvoir faire les travaux. Et ces mêmes cabinets de maîtrise d'œuvre font appel à des sociétés telles que la mienne, à l'époque, pour effectuer les travaux.
En fait, Losange demande à l'ODIS, qui est une société, d'installer le réseau fibre.
Sous-traitant numéro 1.
Qui est le sous-traitant numéro 1, l'ODIS. Et l'ODIS vous emploie en sous-traitant numéro 2.
Tout à fait, pour exécuter tous les travaux.
Et vous-même, vous faites travailler des sous-traitants qui étaient auto-entrepreneurs.
Oui, c'est ça. Exactement.
Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé à la fin de cette année 2021 ?
En fait, Losange confie ses travaux à des bureaux d'études qui ensuite n'ont pas les moyens humains et matériels pour exécuter ces travaux. Donc ils font appel à des sociétés telles qu'était la mienne pour effectuer tous ces travaux. Et malheureusement, ce bureau d'études nous payait que moitié des factures tous les mois, chaque mois, c'est jamais en entier. C'était toujours compliqué. de se faire payer. Mais on continuait quand même les travaux, parce qu'à chaque fois, on disait, ça sera pour le mois prochain, c'est plus compliqué, voilà, il faut des délais de paiement, etc., etc.
Ils vous doivent combien aujourd'hui ?
240 000 euros. Et sachant que je ne suis pas le seul, juste sur 3 entreprises, on est à 1,5 million d'euros ici. Et j'ai décidé de défaire une partie, une humble partie de mon travail.
Vous avez débranché la fibre ?
Oui, c'est ça. Je l'ai ni cassé, ni quoi que ce soit. Je l'ai remis à l'état d'origine, mais uniquement à 2 endroits stratégiques, c'est tout.
Ce qui fait qu'il y a combien de personnes qui ont été coupées ?
Au moins bien entre 1200 et 1500 personnes.
Pour vous, c'était un acte de détresse ? C'était pour qu'on vous réponde enfin ? C'était pour alerter sur la situation ?
Alerter, attirer mon attention envers les pouvoirs publics. Et Losange, maître du Grand Est de la fibre. Et en fait, il n'y a eu aucune réaction, aucune plainte, rien du tout. Tout le monde s'est tué.
Depuis 2 ans, des installateurs de la fibre, des sous-traitants de sous-traitants, manifestent régulièrement contre leurs conditions de travail et demandent une revalorisation de leur rémunération. En Bretagne, dans le Grand Est, et dernière en date, le 1er juillet, à Thonon-les-Bains.
À ce stade de notre reportage, il faut expliquer la différence entre les opérateurs commerciaux que nous connaissons bien et les opérateurs d'infrastructures qui creusent, posent la fibre, mais qui n'assurent pas le raccordement dans les 10 derniers mètres, là où se concentre l'essentiel des problèmes. Comment éviter que ces deux catégories ne se renvoient la balle à chaque panne ? Anaël Verzo a posé la question à la Fédération française des télécoms, qui représente les opérateurs commerciaux. Elle est allée voir son président, Nicolas Guérin, qui est aussi secrétaire général du groupe Orange. Il y a tout juste un an, tous les acteurs de la filière ont travaillé sur un plan approuvé par le gouvernement et l'ARCEP pour tenter d'améliorer la qualité des services aux clients.
On a proposé ce plan au gouvernement et à l'ARCEP qui l'ont approuvé et qui vise effectivement à améliorer, du point de vue de l'opérateur commercial et de l'opérateur d'infrastructure, la qualité des services rendus aux clients. Et ce plan-là, il est en cours de déploiement. Il commence à produire des effets effectivement très intéressants. Ces fameuses photos, ces comptes rendus d'intervention qui ont été mis en place, qui permettent effectivement de mieux connaître collectivement l'état de nos réseaux. Mais c'est aussi un effort qui a été fait sur la professionnalisation de nos sous-traitants. On a effectivement demandé qu'une certification de nos sous-traitants soit mise en place, c'est-à-dire qu'on vérifie collectivement aussi que les gens qui interviennent sur le réseau ont les compétences pour ça Et ça, c'est quelque chose qu'on déploie intensément et qu'on va continuer à déployer d'ici la fin de l'année et qui devrait donner des résultats. Donc ça, c'est le troisième volet. Et puis le dernier volet qu'on a mis en place aussi, c'est on a travaillé avec nos sous-traitants, pas simplement sur la certification, mais aussi sur les processus d'intervention. Et on a aussi beaucoup discuté avec eux de la question de la rémunération, parce qu'effectivement, il y avait un débat, les sous-traitants estimaient ne pas être assez payés, donc il y a des efforts qui ont été faits par les opérateurs pour augmenter les rémunérations. Et donc c'est cet ensemble...
Augmenter de combien, pardon ?
Des opérateurs ont augmenté l'année dernière de 3,5% les tarifs des sous-traitants, 4% cette année. On n'a absolument pas à rougir. Et puis par ailleurs, ce qui a été fait aussi, c'est la simplification des relations qu'on pouvait avoir entre les sous-traitants et nous.
Est-ce qu'il y a encore des opérateurs qui ont des sous-traitants de rang 5, par exemple ?
Les opérateurs ont pris un engagement très clair à l'égard du gouvernement qui était de limiter à un rang 2. Donc vous avez un rang 1, un rang 2.
Et dans les faits, ça se confirme ? L'ARCEP n'est pas convaincu.
En fait, dans le plan de la filière qu'on a présenté, il y a deux choses qui vont nous permettre de le vérifier. C'est la certification, effectivement, parce que, et puis les audits. Les opérateurs d'infrastructures peuvent aller vérifier les interventions des techniciens. Et à ce moment-là, le technicien doit fournir un courrier de son employeur qui atteste non seulement qu'il est employé par un tel, mais qu'en plus, il est certifié.
Et ça, c'est déjà valable. Ça se fait déjà de façon certaine.
100% de nos rangs 1 sont, des techniciens de nos rangs 1 sont certifiés aujourd'hui. Et entre 47 et 100% de nos rangs 2 sont certifiés. Mais l'objectif, c'est d'atteindre 100%. À partir du moment où on aura 100%, on pourra aller faire des contrôles lors des interventions. Et donc, on pourra aller de manière aléatoire vérifier que ce technicien est bien titulaire de son certificat et qu'il est bien employé par un rang 2 ou un rang 1. Et on verra si ça ne suffit pas. Enfin, vous imaginez, hein, si le technicien présente un faux certificat, nous, on n'hésitera pas. C'est-à-dire, il y aura des actions. Il y a des actions judiciaires. Je veux dire, vous intervenez sur un équipement, vous faites un faux usage de faux, vous touchez un équipement qui est propriété d'un opérateur, on n'hésitera pas. De la même façon qu'on constate un certain nombre de pratiques aujourd'hui d'intervenants qui sont limites. Donc,
comme quoi, par exemple?
Par exemple, on a pu entendre dire que certains sous-traitants demandaient de l'argent liquide pour intervenir.
Pour intervenir sur un point mutuel.
C'est-à-dire, ils demandaient effectivement, et ça, on sera sans pitié à l'égard de ces intervenants. Ils n'ont rien à faire dans notre secteur.
C'est-à-dire qu'ils demandent des bacchiches, quoi.
Oui, ils demandent des bacchiches, exactement. Et donc ça, c'est quelques cas, mais on sera, encore une fois, intransigeant à l'égard de ce genre de pratiques. Donc c'est sur le terrain, et pas par la loi, j'en suis désolé, qu'on réglera le problème.
Direction Chamonix-Mont-Blanc, Thonon-les-Vien, Genève-Annemasse. On prend l'autoroute A40.
Donc, je m'appelle Joël Beaugrasset, je suis conseiller départemental, je suis vice-président du département de la Haute-Savoie et je suis également président du CIAN, le syndicat des énergies du numérique, et également président du CAUE, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc nous sommes dans une petite vallée de 8000 habitants ici et on a la chance quand même d'avoir un cinéma art-essai, le cinéma La Trace, qui était la volonté du maire à l'époque, donc il y a une trentaine d'années en arrière, et aujourd'hui qui fonctionne très bien.
Là on passe juste devant le cinéma La Trace. Miribel.
La montagne de Miribel qui est au point culminant à 1600 mètres quasiment.
Là, on vient d'arriver sur un plateau. On a monté plus de 900 mètres. Les paysages sont magnifiques. On aperçoit le Mont Blanc au loin, enneigé. Et juste devant nous, c'est une prairie. Il y a une vingtaine de vaches qui sont là en train de brouter. Deux ânes derrière. Une dizaine de maisons qui ressemblent plutôt à des chalets en bois. Et dans ces maisons, il n'y a ni électricité, ni eau. Et donc ici, il n'y aura pas la fibre.
Disons que les habitants n'ont jamais jugé utile de demander le déploiement à l'époque du réseau cuivre. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de demande non plus. Et puis si vous regardez votre téléphone ici, on a de la 4G facilement. Donc ce n'est pas pertinent d'amener un système autre que celui qu'on a aujourd'hui avec le téléphone mobile.
D'accord, parce que ça reviendrait trop cher d'installer la fibre ici?
Ça revient cher, elle n'est pas très rentable,
puisque l'intérêt aussi de déployer de la fibre optique, c'est d'avoir des abonnés au bout.
Quelles sont les difficultés pour installer la fibre optique en zone montagneuse ?
Il y a un impératif climatique. En hiver, on ne peut pas déployer la fibre parce que soit les routes sont enneigées, donc on ne peut pas faire des travaux de génie civil, soit il fait trop froid ou c'est gelé et on ne peut pas accéder non plus aux infrastructures poteaux et autres. Et aussi, on ne peut pas perturber dans une station, quand vous êtes au cœur d'une grande station, vous ne pouvez pas perturber la circulation des voitures avec des engins de travaux publics. Donc il faut vraiment travailler en saisonnalité lorsqu'on est en moyenne montagne et en haute montagne. Ça veut dire à partir du 1er avril jusqu'au 1er juillet, et ensuite c'est du 1er septembre jusqu'au 1er novembre. Donc ça, ça demande vraiment une organisation spécifique, que certaines entreprises n'ont pas forcément compris. Et donc, une entreprise qui vient de l'extérieur, qui prend en plus des fois des sous-traitants, pas très scrupuleux, eh bien ça donne un résultat extraordinaire.
Qui désordonne ?
Eh bien, les opérateurs qui font du business sur notre infrastructure qu'on a construite. C'est la catastrophe. Les pauvres personnes qui sont embauchées en rang, soit embauchées ou alors qui sont aussi auto-entrepreneurs, qui sont en rang 5 en sous-traitance, n'ont pas forcément des compétences extraordinaires. Et je ne vais pas les incriminer, c'est le système qui est mal fait.
Aujourd'hui, il y a toujours des sous-traitants rang numéro 5 ou, parce que les opérateurs disent « Non, maintenant il n'y en a plus que deux. Il n'y a plus que deux étages. »
Vous voulez que je donne une réponse pour vous dire « Oui, c'est génial, les opérateurs ont fait leur travail. » Non. Non, les opérateurs ne font pas leur travail.
C'est-à-dire qu'il y a encore des sous-traitants de rang 5 ?
Absolument. Il y a encore beaucoup de sous-traitants de rang 5. Alors, pas dans tous les territoires. Notre territoire est particulièrement malmené. Et donc, c'est pour ça qu'on ne supporte pas. On est une terre de travailleurs. Lorsque l'on part en montagne, on est encordé. On a préparé sa course. On a travaillé sur une carte, comme on travaille sur des cartes aussi pour déployer la fibre. Et aujourd'hui, en fait, on perd la carte, oui. Parce que tout est désordonné une fois qu'on a fait le travail. Et ça, c'est pas possible.
Là, je suis au milieu de la cour du Sénat et je cherche le bureau 252 où se trouve Patrick Chaise.
Bonjour.
Avec qui j'ai rendez-vous. Patrick Chaise est sénateur de l'Ain et président de l'AVICA. C'est le numérique des territoires. Et il a fait une proposition de loi pour réorganiser l'installation de la fibre optique.
Alors, vous voyez, il y a 5 articles. C'est relativement simple. Oui, alors cette proposition de loi, elle a pour objectif de faire en sorte que on donne le moyen d'articuler les relations entre les opérateurs d'infrastructures et les opérateurs commerciaux.
Est-ce que ce seront toujours les sous-traitants qui feront les installations avec votre projet de loi ?
Ce serait effectivement toujours les sous-traitants. L'important, c'est que ces sous-traitants ils soient encadrés et qu'ils soient formés. On fait un certain nombre de propositions de labellisation, de faire en sorte qu'on ait des comptes rendus d'intervention avec photos avant, après, qui permettent par de l'intelligence artificielle de voir si le travail a été fait correctement ou pas. C'est-à-dire que le sous-traitant fait le travail, mais en fait on donne la responsabilité à l'opérateur d'infrastructure ou l'opérateur commercial du contrôle de ce travail et de la responsabilité de ce travail. Je veux vous dire, au bout de quelques temps, les opérateurs vont faire du tri. Et vont faire en sorte que, justement, on garde que ceux qui répondent au cahier des charges et qui répondent aux critères de qualité qui auraient été fixés collectivement.
Ensuite, garantir la bonne utilisation des deniers publics.
Oui, pour faire en sorte que, justement, les financements publics qui sont apportés dans le cadre des travaux soient garantis par une qualité. S'il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de versement de subvention, il n'y a pas de participation de la collectivité.
Et ça, c'est ça qui ne leur plaît pas trop aux opérateurs, non ?
Mais je comprends pas pourquoi ça ne leur plaît pas, parce que pour eux, l'objectif, c'est bien sûr de faire de la qualité. Et s'il y a de la qualité, il y a subvention. Donc voilà, c'est en fait accompagner la qualité.
Le 5 mai 2023, jour du vote, tous les opérateurs commerciaux étaient présents dans les couloirs du Sénat pour tenter de convaincre les élus qu'il fallait voter contre. Mais malgré leur lobbying intensif, la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité.
L'article 3, j'ai considéré que pour un certain nombre de raccordements, notamment ce qu'on va appeler les raccordements complexes, qui nécessitent donc un investissement particulier. Alors, il fallait que ce soit l'opérateur d'infrastructure qui reprenne la main.
L'article 4, renforcer les pouvoirs de contrôle et de sanction de l'ARCEP.
C'est de donner à l'ARCEP les moyens de contrôle et de sanction.
Donc l'ARCEP qui est le gendarme des télécoms.
Pouvoirs et sanctions, ce qu'ils n'ont pas sur les sujets du raccordement. Et enfin, l'article 5, c'est la protection du consommateur. C'est de faire en sorte que, de façon automatique, le consommateur, au bout de 5 jours de panne, il ne paye plus son abonnement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des abonnés qui n'ont pas eu le service pendant 3 mois et qui continuent à payer. Alors, cette proposition de loi, je le rappelle, a été votée à l'unanimité du Sénat. Quand on le regarde du côté des opérateurs, de l'ARCEP, et même du côté du ministre, il y a des réserves de la part des opérateurs. C'est carrément un rejet. Voilà. Ils n'ont pas le bon thermomètre. Ils n'ont pas conscience de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Donc le travail doit se continuer à l'Assemblée nationale. Et je suis persuadé que mes collègues députés sauront aussi apporter leur touche pour faire en sorte que le texte soit donc le mieux adapté.
La proposition de loi doit maintenant passer à l'Assemblée nationale pour être votée par les députés. Mais depuis le mois de mai, la date n'est toujours pas programmée à l'agenda.
Les ratés de la fibre, un reportage d'Anaël Verzo, réalisation Jérôme Chélius, assisté de Martine Messonnier, mixage Pierre Henry. Ce reportage est d'ores et déjà disponible à la réécoute sur le site de France Inter.